A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Et puis un jour, je suis tombée sur un film de Jacqueline Gosselin intitulé « Mon histoire n'est pas encore écrite » et qui commençait comme ça.
J'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens de rien. Pas même le jour de mon arrivée à Marseille.
En entendant cette voix, j'ai tout de suite senti l'odeur des macroutes et de la fleur d'oranger. L'odeur de l'histoire qui ne s'efface pas. Le parcours de Jacqueline Gosselin est celui de millions de Français rapatriés d'Algérie au lendemain de son indépendance, avec son lot de désenchantement et de sentiments d'abandon. Et pour celle qui est devenue réalisatrice de documentaires, les images comptent. On se baladera notamment dans son film sur Renette Loranaise et dans son Liberté, Égalité, Fraternité qui se penche sur la France et sa diversité. Donc les images comptent, mais les mots aussi. En sol majeur et son projecteur se feront leur cinéma autour des mots pieds noirs, séfarades, juifs algériens. Salam alaikum, Jacqueline Gosselin.
Salam.
Salam. Est-ce qu'il y a encore des petits mots d'arabe qui vous viennent à l'esprit au quotidien ?
Oui, justement, je t'aime ma fille, Nundrbekia Bunche, des mots comme ça qui résonnent en moi parce que c'est la maman qui est perdue, mais qui n'est pas perdue avec ces petits mots d'arabe. Et puis, des fois, les petites insultes en arabe quand je faisais des bêtises à tekménagite où on mélange à la fois que tu reçoives la maladie et en même temps l'amour. Et chez nous, c'est très... Parce que maman ne parlait pratiquement qu'en arabe. Et elle m'a élevée avec l'écoute de cette langue. Et j'ai tellement eu peur de perdre maman que j'ai eu peur d'apprendre l'arabe. Comme j'ai eu peur d'apprendre à faire la cuisine que j'aime tant. Et plus j'aime la langue arabe, je l'écoute vraiment et je l'apprends à mon compte.
On reviendra dans votre cuisine intérieure alors, hein, autour de cette question de la langue et de la mer. On reviendra évidemment aussi sur l'histoire de la Cinémathèque d'Alger, mythique et détruite malheureusement. Mais justement, son histoire et la vôtre se croisent. Puisque ce documentaire, votre documentaire, s'ouvre sur vos propres mots, Jacqueline Gosselin.
J'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens de rien. Pas même le jour de mon arrivée à Marseille. J'ai perdu la mémoire. J'ai tout perdu. C'était le 25 novembre 1961. Des fusillades éclataient de partout. Dans la hâte de notre départ, j'avais emmené ma poupée. Après tant d'années d'absence, Alger me prend dans ses bras. Ce bonheur, cette joie à peine perceptible, semble avoir effacé ces longues années d'attente. Mes parents m'ont donné comme second prénom Messaouda. Messaouda, cette autre part de moi-même, cette lumière manquante.
J comme je me souviens.
Vous êtes née donc en Algérie en 1953 à Constantine, Jacqueline Messaouda. Mm-hmm. On sent en écoutant cet extrait des traces ineffaçables et pourtant de quoi vous ne vous souvenez pas.
Je vais être très honnête, j'ai une amnésie mais très très grave parce que je ne me souviens pas de ce voyage de retour, je ne me souviens pas des rues, je ne me souviens pas de tout ça et en même temps je me souviens de tout parce que la culture que je porte en moi et que maman a porté en elle, tout ça c'est comme si moi je l'avais collé en moi. Elle sort avec justement ses noms en arabe. Même s'il y a eu cette guerre, la guerre elle est là, mais elle est en même temps pas là pour moi. Parce que pour moi le plus dur, c'est l'oubli que je veux absolument combattre. Et c'est pour ça que à chaque moment, ma culture algérienne, je la cherche partout.
Vous êtes née en 53, donc un an avant le déclenchement de ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pensez que cet effacement de la mémoire est lié à cette guerre ?
peut-être, parce que, voyez, on est tous d'un père et d'une maman. Moi, mon père est mort, j'avais 2 ans. Il était tailleur et il allait à son travail en Algérie. Je n'en sais pas plus. Il paraît qu'il y a eu, en 55, une sorte de déflagration dont je ne suis au courant de rien. Maman a tué tout ça. Et mon père est mort 3 semaines plus tard dans le coma. Elle lui a cherché un hôpital et elle a demandé à un professeur en médecine de lui trouver une chambre seule ou avec d'autres et pas les grandes salles communes. Et le fait que j'ai perdu mon père en 55, j'ai l'impression que je porte toute la guerre en moi, mais c'est pas une guerre Algérie-France, c'est une guerre intérieure. Et c'est pour ça que cet oubli, il a besoin d'être compensé par la musique ancestrale, la nourriture, la langue. Et merci de me poser cette question, j'entends qu'elle va au plus profond de mon âme.
Votre père disparaît donc en 1955, vous avez 2 ans. Que devenez-vous avec votre mère Esther dans cette Algérie en guerre ?
Je deviens quelqu'un de différent. Pourquoi ? Parce que maman est seule. Beaucoup de gens de ma famille qui se sentaient plus français que les Français sont partis en 49 en France. Donc eux, l'algérianité, ils n'ont pas voulu en entendre parler plus longtemps. Maman est restée avec quelques autres de ma famille, mais seule, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dans une clinique, la clinique du docteur Zerbib, et quand j'ai revu Madame Zerbib, elle m'a dit « Quand j'ai vu ta maman arriver pour trouver du travail, elle était cuisinière de métier, maman. » Et elle voulait, c'est une clinique d'accouchement. Et maman, qui était très fière, parce qu'il y avait toutes les accouchées, musulmanes, juives, chrétiennes, et maman, elle a dit à sa patronne « Je veux qu'ils aient les meilleures tomates, le meilleur couscous et tout. » Et voilà, j'ai que ce souvenir de, pas de guerre, comment vous dire.
C'est une belle image, votre mère, vous la voyez en éternelle accoucheuse de cette Algérie, finalement. Si j'en crois la définition du Larousse... Le pied noir, c'est ce Français d'origine européenne installé en Afrique du Nord jusqu'à l'époque de l'indépendance. Pour vous poser cette question, Jacqueline, qu'est-ce que vous savez, vous, sur vos ascendants ? D'où viennent-ils ?
Pour moi, mes ascendants viennent d'Algérie, parce que les Juifs d'Algérie ont une histoire en Algérie de 2000 ans, où, bien sûr, il y a les Juifs qui partaient d'Istanbul, faisant tout le voyage par la Grèce jusqu'en Espagne. Et quand, en 1492, on a expulsé les Juifs et les musulmans d'Espagne pour rejoindre le Maghreb, donc l'Algérie. Mais moi, mon papa est né en 1894. Donc, nous sommes Algériens. Un an avant la naissance du cinématographe.
L'Algérie n'était pas encore l'Algérie.
Voilà. Pour moi, pourquoi il est né algérien ? Parce que pour moi, c'est justement cette culture ancestrale. Je crois que je la chercherai toujours. Parce qu'elle est tellement lente, longue, que bien sûr, des personnes dans les 132 ans de colonisation, on a voulu détruire cette algérianité qui est inscrite dans les gènes, dans mes gènes et dans les gènes, bien sûr, des Algériens. Et comment vous dire, j'ai l'impression que c'est ça le fond. Le fond, c'est ces siècles. Mon père est né dans l'autre siècle. Donc, vous imaginez que moi, je ne peux pas dire que je ne sois pas algérienne.
Vous revendiquez amoureusement, douloureusement, cette identité algérienne, Jacqueline. Pourtant, en tant que juive d'Algérie... on le sait, vous n'avez sans doute pas eu le même statut que les musulmans. Vous avez sans doute bénéficié de la nationalité française. On pense évidemment au décret Crémieux.
Alors, je vais être encore là une fois, peut-être à contre-courant par rapport à des idées de certaines personnes que j'entends au quotidien. Pour moi, le décret Crémieux, pour certains, il a fait le bonheur. Pour moi, le décret Crémieux a été le moment de notre séparation avec les amis algériens. Pourquoi ? Parce que ce décret Crémieux, on était français, 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 d'accord ? Donc on allait dans les écoles françaises, on avait des belles petites jupes, les gens pensaient qu'on était habillés en Chanel et tout ça, alors qu'on avait nos gandouras.
Quand vous dites « on », c'est la communauté juive ?
Oui, C'est-à-dire que, bien sûr, on était en européen, mais on avait nos traditions et elles étaient très arabisantes. Et je me rappelle d'une petite, j'ai pas de souvenir, mais une petite gandoura rose que j'étais avant mon retour d'Algérie en France.
Donc vous étiez français ?
Français. Mais le problème est que dans les années 40, comme vous le savez, en 41, on n'était plus français. On nous a mis l'étoile. On était juifs. On était redevenus indigènes. Et personne ne s'est jamais posé la question qu'après-guerre, on était redevenu français. Et je vous dis très franchement, il y a quelque chose qui m'a percuté ces derniers temps. L'Allemagne prévoit un dédommagement pour les Juifs qui, en Algérie, ont porté l'étoile pendant la guerre. Un dédommagement de 2 650 €.
L'Allemagne.
Moi, je pense que ça devrait être la France qui les donne, puisque c'est l'État français qui a collaboré.
Donc, en tout cas, ce qui explique votre distance par rapport à la francité, vous parlez beaucoup d'algérianité, la francité, c'est d'avoir été séparé de la communauté musulmane avec ce décret Crémieux, mais c'est aussi d'avoir été exclu de cette identité française. Vous avez une grande colère par rapport à la France. Hein.
Oui, parce que je l'ai, cette colère, parce que je la retrouve avec l'étoile jaune en 41, et je la retrouve maintenant quand on me dit que je ne fais pas partie d'Histoire de France.
Alors cette population juive et pieds noirs, on le sait, elle quitte par vagues cette terre d'Algérie. Pourquoi est-ce que votre mère décide de partir précisément en novembre 61? Est-ce que vous le savez, Jacqueline Gosselin?
Oui, c'est une période un peu dure de notre vie à maman et moi. Maman, je ne crois pas qu'elle ait réellement voulu partir d'Algérie. Une de mes tantes a dit « Pars, on va violer ta fille, tu es seule avec elle, tu vas aller à Marseille et puis… »
Il faut rappeler qu'il y avait des attentats de l'OAS, l'organisation armée secrète à ce moment-là.
Absolument. Et on dit, une de mes tantes dit « Tu vas aller à Marseille, je t'enverrai le cadre. »
Le cadre, et, c'est-à-dire vos affaires?
Les affaires, et tu vas aller, on va tout t'envoyer. Et quand on part déjà avec ta fille, tu seras protégée. Les patrons de maman lui avaient dit non, Louise, Esther, vous devez, je pense qu'il la vous voyait, rester avec nous, attendez. Nous allons partir ensemble et vous travaillerez chez nous quand nous ouvrirons peut-être une clinique en France. Maman a eu peur, je ne sais pas pourquoi. On s'est retrouvés chez eux à Marseille et le cadre, bien sûr, n'est jamais arrivé. On a rétorqué à maman, une de cette tante. Quand nous sommes arrivés chez toi, tout était déjà pris. Et maman n'amène quoi? Un couscoussier, une fouta qu'on appelle, vous savez, quand on va au hammam, on s'enveloppe de ce drap, et une couverture, et une très belle serviette de toilette que j'ai encore, une sorte aussi de grand drap de bain. Et comment vous dire, il n'y avait pas, même pas de photo de papa.
Mais ça veut dire que, justement, en donnant tous ces éléments, ça en dit long. Vous êtes perçu comme péjorativement des pieds noirs par cette famille de juifs sans doute assimilés. Parce que c'était ça le vœu premier des juifs qui arrivaient dans cette France.
Oui, même pas pieds noirs, comme arabes. Et jusqu'à présent, comme arabes, alors que je porte étrangement très fort ma judaïté, mais je porte aussi très fort mon arabité. Et ce mélange est très mal perçu, je pense, par beaucoup de gens qui ne tiennent pas à ce que les êtres vivent ensemble, quoi.
Si je vous dis, Jacqueline Gosselin, José Lito, je suis sûre que vous allez jubiler. Ce n'est pas sûr pour nos jeunes auditeurs de RFI, mais on va essayer de faire travailler leur imaginaire. José Lito, c'était un enfant prodige, hein, devenu une légende du 7e art dans les années 40-50 et qui a déferlé sur les écrans de votre enfance algérienne. vous avez retrouvé votre sourire, Jacqueline Gosselin, pour En Sol Majeur. Quand vous entendez cette voix d'or, qu'est-ce qui vous revient en mémoire? Et justement. Ah,
pour le coup, en mémoire, quelque chose me revient. Une maman qui prend la main de sa petite fille qui est moi. Et puis quand on va voir Joli Zélito au cinéma. Et là, tout d'un coup, on est comme, vous savez, deux personnes qui n'ont jamais vécu de douleur. Parce qu'il y a une voix d'un enfant qui nous mène vers l'avenir.
C'est la vertu de la musique, ça. Hein,
oui.
Vous qui n'avez plus d'image de votre enfance, c'est ce que vous dites, et qui faites aujourd'hui des images, est-ce que vous pensez que votre amour du cinéma a précisément un lien avec ce qu'on va appeler ce trou de mémoire?
Je ressens totalement cela. C'est comme si, justement, c'est pour refabriquer un monde, et surtout des images impossibles de cette Algérie ancestrale qui, toute ma vie, m'a conduit à travailler dans l'adversité, tellement c'est dur ce combat, tellement c'est dur parfois, Yasmine, de faire accepter cette culture qui est si riche et dont on a peur d'entendre l'écho.
Alors on va en entendre quelques bribes de ce patrimoine, on peut dire, hein, culturel. Mmh. Vous n'avez pas effacé, et bien heureusement, de votre mémoire, la reine de la musique arabo-andalouse, notre chère Reinette Loranaise, à laquelle vous avez consacré un documentaire. Donc on va l'écouter chanter avant de l'écouter parler. Il faut imaginer Reinette avec un luth sur les genoux, des bijoux en or aux doigts et bien sûr des lunettes noires, car notre Reinette est aveugle.
Rabbi بلاني بالمحال عين عين لك حلا سويدة
pour En Sol Majeur sur RFI, devenue, alors ça c'est de l'histoire, l'élève du célèbre violoniste séfarade Messaoud Medioni, dit Saoud Loranais. C'est lui qui lui apprend toutes les finesses du style Haouzi, et c'est lui aussi qui la surnomme Reinette. Saoud qui jouera sa musique dans un célèbre café d'Oran avant de venir faire une tournée en France dans les années 40. C'est ce que raconte Reinette dans votre documentaire, Jacqueline Gosselin.
Oui, il avait acheté un café ici à Paris, à la rue Bergère, tiens, précisément. Et j'étais venu passer quelque temps ici, même avec lui, dans cet établissement-là. Il m'avait emmené pour être là-bas définitivement, mais je commençais un peu à m'impatienter. Et je lui ai dit, monsieur Medioni, parce que c'est comme ça que je l'appelais, je vais retourner à Oran, je vais aller voir ma famille, je vais aller voir mon... Il est venu m'accompagner. Tout le monde lui dit, Saoud, viens, il y a le bateau qui est libre, viens. Il n'osait pas revenir à Oran, je ne sais pas pourquoi. Il avait cette intuition qu'il ne voulait pas revenir à Oran pour être diminué ou une chose ou une autre. Et pourtant, un jour, il était à Marseille et j'avais mes sœurs qui habitaient Marseille. Et j'avais écrit une lettre. On lui a dit, voyez, monsieur Médioni, regardez, Renatel écrit à la machine. Regardez, elle nous a écrit cette lettre. Et il avait vu cette lettre. Et je crois qu'il a même versé des larmes en disant, voilà, une personne qui ne voit pas. Et voilà, elle écrit comme tout le monde.
Ressuscité par la voix de Renette Loranaise, Saoud Loranais, qui finira déporté dans le convoi numéro 57 en mars 1943, direction Drancy. Jacqueline Gosselin, faire un documentaire sur cette Renette, sur cette figure musicale judéo-algérienne d'expression arabe. J'ai tout bon là, hein, si oui. Je dis ça comme ça, voilà. Ça représente quoi, sérieusement, pour vous ?
Pour tout vous dire, ma vie avec Renette, c'est-à-dire ça a été une vie. Maman a été très jalouse de ça, parce que je cherchais à vivre ma vie algérienne, si on peut dire, et ne pas vivre une vie française.
Ah oui ?
J'ai été très loin. Qu'est-ce que je fais ? Je rencontre Renette, je vais chez elle, je veux même la mettre dans un de mes courts-métrages. Amours éternels, qui a été sélectionné à Cannes. J'amène maman sur le plateau, toute l'équipe. Maman lui dit « Tais-toi !» parce qu'elle crie, Renette. Tout d'un coup, vous savez, face à une équipe qui est de grands techniciens de cinéma et tout, qui découvre l'Algérie, quoi. Je me suis prise la folie.
Faire un film, c'est revivre une vie algérienne.
Voilà. Comment vous dire, Yasmine ? J'ai été au bout de cela. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit un film de long métrage de fiction, Richard Berry avait accepté, où la vie de Renette, dans les années 40, j'ai voulu le faire en langue arabe. Ça a été le premier obstacle dans ma vie en France. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, c'est
pourquoi
pas possible.
C'était un obstacle ?
Parce que un film en langue arabe dans les années 85 en France, c'est pas montable financièrement. J'ai eu la chance que quelqu'un avait vu à Arte mon court-métrage Esther, et puis j'ai dit, il faut que je le fasse en documentaire, sinon je vais mourir si je fais pas mon film sur Renette. Je l'aimais tellement d'amour.
Vous parliez d'Esther, donc on va mettre une oreille dans ce documentaire, après celui consacré à Renette, qui s'intitule « Le port des amours », je ne l'avais pas dit. Je ne sais pas ce que vous mangez, vous, pendant la fête de Pourim. En tout cas, cette fête qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther, sur la délivrance miraculeuse d'un massacre de juifs de grande ampleur, vous a inspiré un documentaire précisément intitulé Esther. Ça commence autour d'un repas traditionnel entre une mère qui s'appelle Esther et sa fille. Et elles regardent ensemble un film familial, un film Super 8, où on voit le mariage d'Esther, la maman. Et tout à coup, le film bascule dans le mythe d'Esther, l'Esther biblique qui cache ses origines et qui est présentée à Assuérus, roi de Perse.
Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimaï, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Yéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance des Gaïs. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes.
T'es comme terre promise.
Alors, il faut donner un petit peu l'image, Jacqueline Gosselin, pour En sol majeur. Votre Esther bascule esthétiquement de façon fascinante, je trouve, dans des tableaux à la Delacroix, quasiment, avec des intérieurs lourds de colle, on pourrait dire, ou avec un hammam qui accueille des corps féminins nus. Quel était le sens pour vous de ce documentaire ?
C'était à la fois d'aller vers la beauté. Mais surtout, moi, je n'avais pas connu que maman me disait toujours « Oh, quand on était à Constantine, on était avec mes copines, on allait au hammam, on était... » Comment vous dire ? Vous savez, cette espèce à la fois, entre guillemets, d'enfermement, mais en même temps d'aller vers le libre. Bon, c'est vrai que j'ai choisi de transcrire « Femmes d'Alger » dans leur appartement parce que pour moi, c'était une façon toujours de dire « L'Algérie, elle est artistique aussi. Peut-être que c'est vrai que ne connaissant pas à l'époque d'autres œuvres, c'est-à-dire plus algériennes entre guillemets, j'ai voulu aller vers cet orientalisme.
Mais j'ai eu l'impression que vous souhaitiez célébrer de façon symbolique, peut-être même biblique, œcuménique peut-être, je ne sais pas, un mariage entre les Juifs et les Arabes.
Comment vous dire ? Pour moi, ce mariage, je ne peux pas vivre sans ce mariage. Parfois, cette désunion me rend combative et me rend, comment vous dire, presque en colère. Parce que vous savez bien, ces costumes, c'est... Maman n'osait pas danser, par exemple. Dans les mariages, on m'appelle la djinn. Dans tous les mariages où j'allais en famille, depuis les aînés, parce que c'est les mêmes traditions pour les fiançailles, on met le aîné
et
sur les mains. Et dans tous les mariages de toute ma famille, quand il y a de la danse arabe, je suis la première sur le...
sur la piste de danse.
Sur la piste, et surtout que je peux me mettre en transe. Ma maman avait honte, pas honte, parce que vous savez très bien... Comme maman était femme seule avec sa fille, il fallait toujours qu'on se montre clean, mais en même temps, dans les mariages, on va au bout de l'expression algérienne, judéo-arabe. Et donc, moi, je danse et je vais jusqu'au bout de la folie.
J'ai relevé cette phrase, vous dites que cette désunion entre les Arabes et les Juifs est douloureuse hein, pour vous. J'imagine que vous faites référence au conflit du Moyen-Orient. D'ailleurs, au début de l'émission, je vous ai accueilli par un salam alaikum. Est-ce que j'aurais pu vous accueillir aussi avec un shalom ?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'Israël, pour aller au cœur de la question, est votre terre promise ?
Non. Mais pour tout vous dire, peut-être, je vais être très très franche, toute jeune, j'étais jeune communiste. J'ai encore gardé toute cette lutte en moi, comment vous dire, de l'accès à la culture, de la lutte pour les peuples, de la paix, tout ça. Et quand j'allais en Israël, même si j'allais voir ma famille avec maman, qu'est-ce que je faisais ? Je rencontrais Monsieur Levin Braun, le membre du Parti communiste israélien, du Parti Raqqa. Je rencontrais une amie qui a été mariée avec un peintre palestinien. Comment vous dire, c'est pas du tout contre Israël en tant qu'Israël, mais c'est que je n'ai jamais été dans le camp de la division. Comment vous dire, je pense que les séfarades en Israël doivent être peut-être le fer de lance de cette paix, puisque la langue, quelque part, est commune.
Est-ce qu'on peut vous rapprocher avec une certaine frange de la population algérienne qui a été francisée et qui peut se définir, ça ne se dit pas haut et fort, mais puisqu'on est entre nous, allons-y, qui peut se définir comme des pieds noirs musulmans ? J'ai entendu des Algériens se dire, se sentir être pieds noirs musulmans. Vous voyez, vous êtes très proche culturellement de ce que vous définissez vous-même.
Oui, peut-être pas pour moi pieds noirs musulmans, peut-être moi je me dirais... Comme des fois un journaliste de Libération, Philippe Roumous, avait dit de Renette Loranès, elle est juive algérienne. C'est-à-dire que Renette n'est pas toujours bien vue aussi. Elle était adulée, bien sûr, dans la communauté juive, mais son algérianité, moi, toute modeste petite Jacqueline Messaouda, pareil, est mal vue. Elle est mal vue, mon algérianité. Elle est mal vue par des personnes qui vivent la même culture juive que moi. Et elle est mal vue aussi en France.
Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas la nationalité algérienne, Jacqueline Gosselin ?
J'avoue m'être souvent posé la question. Et d'ailleurs, mes amis algériens me disent « Tu es plus algérienne que nous ».
Oui, mais alors donc, pourquoi ?
J'ai pas fait le pas, mais je me sens très algérienne.
Mon histoire n'est pas encore écrite, donc ça c'est un titre troublant, hein, entre parenthèses, de votre documentaire consacré à la Cinémathèque d'Alger, documentaire magnifique réalisé en 2015 au moment de l'exposition La saga de la création de la Cinémathèque algérienne. Et c'est un documentaire qui permet de comprendre l'aura intellectuelle et politique de ce lieu. Vous y rencontrez les grandes figures qui ont fait son histoire, et notamment Ahmed Bejaoui, commissaire de l'exposition qu'on va entendre, mais d'abord un certain Jean-Michel Arnold, cinéphile et animateur de cette même cinémathèque.
Une fois en Algérie, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes formidables. Mohamed Sadek Moussaoui, qu'on appelait Mayedine, qui était un vrai génie politique, et c'était quelqu'un qui rendait tout possible. Il n'y avait pas de problème. S'il pensait que c'était quelque chose qui allait, dans un espace ou un autre, créer un peu d'ébullition, il disait « on y va ». Et moi, j'ai dit à Mayedine, il faut absolument faire une cinémathèque qui soit un endroit où se rencontrent les gens de cinéma et leurs spectateurs. Et il a dit « d'accord ». Et on a eu cette chance formidable, c'est qu'il ne savait pas ce qu'était une cinémathèque et que personne en Algérie ne savait ce qu'était une cinémathèque. Donc, ils nous ont laissé toute liberté.
L'idée de regrouper tous ces films qui ont été faits, comme ceux de Vautier, comme ceux de Chanderly, de Clément, les reporters américains qui étaient venus, qui avaient fait, on avait récupéré des choses, les photos, tout ce qui avait servi de support comme arme de propagande, si vous voulez, puisque c'était le cas, eh bien, ils voulaient le regrouper et créer une espèce d'INA, avant la lettre. C'était un visionnaire, Mehdi Moussaoui.
Excellent sol majeur de « Mon histoire n'est pas encore écrite », signé Jacqueline Gosselin, sur la musique, là, à l'instant de la bataille d'Alger, ce fameux film longtemps interdit, d'ailleurs, en France. Qu'est-ce que vous avez ressenti, d'ailleurs, en regardant ce film incroyable ?
J'ai ressenti l'existence de ce combat, justement. J'ai ressenti...
On avait voulu ignorer, effacer, ne pas nommer.
Absolument. Et j'ai ressenti aussi qu'il y avait un peuple derrière ce combat. Et si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que les personnages féminins, ces héroïnes, je ne les ai jamais condamnées. Et beaucoup de personnes ont peur, au fond, de reconnaître cette guerre comme étant une guerre de libération.
Aujourd'hui encore.
Aujourd'hui encore.
En France.
En France, il y a un très très grand silence autour de cette question de la guerre d'Algérie, ce qui fait que moins on la connaît, moins on la transmet, donc plus les générations futures vont être amnésiques et peuvent commettre des drames. Pourquoi ? Parce que, comme a dit Elie Wiesel, et j'adore cette phrase, ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'expose à ce qu'elle recommence. Et pour moi, c'est fondamental ce que je fais actuellement, modestement. Attention, je témoigne avec mes autres compagnons, témoins, autour de la guerre d'Algérie, dans les écoles.
Vous qui n'avez pas de mémoire, vous témoignez sur cette guerre d'Algérie. Ah, comment vous faites ?
Justement, les autres, il y a les appelés, le FLN, Christian, un appelé, Eliette, une pied noire, il y a moi, la juive d'Algérie, et le Harkim et Saoud. Et moi, cet oubli, qu'est-ce que je leur dis aux enfants ? J'ai tout oublié. Et cet oubli, je me reconstruis comment ? Je retourne en Algérie, je fais des films, et en retournant en Algérie, j'essaye pas de me rappeler, attention, puisque je retourne dans une Algérie indépendante. Je suis allée à Alger, à Annaba, à Oran. La seule ville, pour le moment, qui m'est interdite, mais à moi-même, attention, c'est Constantine, ma ville de naissance.
Elle vous interdite pourquoi ?
Avec moi-même, j'ai envie maintenant, c'est maintenant que j'ai pris la décision, parce que pour moi, je n'admirais que l'Algérie indépendante. Pour moi, c'était la ville plus de ma mère, de mon père.
Donc, vous étiez restée en 61, coincée.
Merci. Ouais. Vous venez de m'aider et de me dire quelque chose de merveilleux. J'étais restée en 61.
J'aimerais qu'on revienne une seconde sur ce film autour de la Cinémathèque d'Alger, qui est devenu donc un lieu de débat révolutionnaire. Vous le montrez bien dans votre documentaire « Mon histoire n'est pas encore écrite ». Les plus grands cinéastes y sont passés. Godard, Otan Lara, Youssef Chahine, Werner Herzog, Costa Gavras et j'en passe. Et alors, il y a des anecdotes absolument croustillantes autour des programmations pensé par deux grands critiques, notamment un certain Jean Douchet. Jean-Michel Arnold vous raconte, Jacqueline Gosselin, comment les films d'Hitchcock sont perçus à l'époque par le public d'Alger.
Ça, c'était très amusant parce que lui avait dit, moi, je veux faire Hitchcock. Moi, je lui ai dit aussi, Hitchcock, tu sais, je ne sais pas. Si, je veux faire Hitchcock. Donc, il fait Hitchcock pendant, je ne sais pas, 10 jours ou 15 jours. Et puis, à la dernière séance, il y a un jeune garçon qui lui dit « Écoutez, monsieur Douchet, il faut qu'on vous remercie. Vraiment vous remercie parce qu'on a passé des moments très, très, très agréables et très enrichissants avec vous. Vous êtes vraiment une intelligence, vous avez une acuité à saisir le cinéma, vous nous avez décrypté des images. Vous étiez... C'est vraiment un grand, grand, grand plaisir de passer ces moments avec vous. Et puisqu'on a engrangé de la sympathie, il faut qu'on vous dise « Ça ne nous intéresse pas ». Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réforme agraire, c'est la condition de la femme, c'est la lutte contre l'impérialisme, ça nous intéresse. Mais Hitchcock, ça ne nous intéresse pas. Et Douchet leur dit, ben, écoutez, moi, je vous comprends très bien. Ben, écoutez, vous venez de voir le film, est-ce que vous pouvez me raconter telle séquence? Évidemment, répond-il, puisque je viens de le voir. Et il raconte la séquence. Et Douchet lui dit, ce que vous venez de me dire n'est pas dans le film. Vous avez été manipulé par Hitchcock. Et si vous voulez lutter contre l'impérialisme, il faut apprendre ce que c'est que la manipulation. Et le cinéma est la meilleure école de manipulation qu'on puisse trouver.
Extrait en sol majeur de « Mon histoire n'est pas encore écrite ». Quelle belle définition du cinéma, Jacqueline Gosselin.
Oui, parce qu'on peut tout transgresser avec l'image et on peut tout comprendre sans propre intimité et en même temps l'histoire d'un pays. Et cette cinémathèque étant un lieu... Comme toutes les cinémathèques, ce sont des lieux politiques. Quand le FLN veut ce lieu, il veut aussi que le peuple algérien, qui a été privé de culture, même s'il aimait le cinéma, c'est pas tout le monde qui pouvait aller au cinéma pendant la colonisation, bien qu'il y avait des salles. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le peuple algérien, les femmes, les hommes qui vont voir des films, eh ben, leur regard, tout d'un coup, devient critique de leur propre vie et d'une vie à venir.
Jacqueline Gosselin, vous pensez faire des films français ou des films algériens?
Pour moi, c'est plus algérien. Mais j'ai reçu du ministère de la Culture, au moment de mon film sur la Cinémathèque d'Alger, lors d'une commission, il n'a pas reçu toutes les subsides qu'il devait recevoir. Et ce qui a été très violent, nous avons reçu une lettre nous disant que mon film sur la Cinémathèque d'Alger concernait les questions algériennes et non l'histoire de France. J'ai tellement trouvé ça violent, je vous avoue que je voulais partir de France. Je ne sais pas où, peut-être en Algérie. D'ailleurs, tout le monde à ce moment-là m'ont dit bah, « si tu n'es pas heureuse, tu rentres en Algérie ». Et je me disais « c'est terrible ». Mais aujourd'hui, j'ai compris que je devais être moins en colère de tout ça. Pourquoi ? Parce que quand je témoigne dans les classes, quand je veux faire un film sur ces témoignages, je me dis que c'est parce que ces gens-là qui ont écrit ça ne connaissent pas l'Algérie, n'ont pas envie de l'aimer, n'ont pas envie de comprendre qu'il y a une culture en Algérie et pas qu'une guerre et pas que des immigrés. Toute ma vie, je combats. Je ne veux plus taire.
Pourquoi est-ce qu'en même temps on vous appelle la cinéaste du Quai d'Orsay?
Mais j'ai l'impression que c'est moi qui pourrais faire la paix. On m'appelle la femme du Quai d'Orsay, la cinéaste, parce que je me dis, attends, telle diplomatie, tel ceci, il faut réfléchir. Mais je ne peux pas tout résoudre seule.
Vous êtes le Kofi Annan du cinéma.
J'adorerais.
Liberté, égalité, fraternité.
Sont les mots fondateurs de la Déclaration des droits de l'homme. Lesquels de ces trois mots vous fait le plus défaut dans votre vie de tous les jours?
Liberté, ensuite égalité.
Ça mérite un développement, mais...
Oui.
En tout cas, cette devise vous a inspiré un documentaire autour de la question de la diversité en France, question qui est toujours mal perçue. Vous êtes allé filmer les figures citoyennes qui œuvrent silencieusement, chacune dans leur domaine, pour casser un petit peu ce qu'on pourrait appeler ce mur de Berlin entre la France blanche et la France des banlieues. On va écouter la pédopsychiatre qu'on connaît bien ici à RFI, Marie-Rose Moreau, mais d'abord une maman asiatique, chinoise peut-être, je ne sais pas, heureuse d'amener son fils au conservatoire de musique de Stein, là où la grande chef d'orchestre Zaya Zuani donne des cours de musique classique pour nos enfants du 9-3.
Mon enfant s'appelle Thierry Descamps, qui est depuis 5 ans au conservatoire avec Zaya Zuani. Donc, pour moi, je trouve que la musique est très, très importante dans la vie. Comme ça, que l'enfant peut épanouir. Je trouve que c'est très important que l'enfant suive à l'école de la musique au lieu de perdre leur temps à l'extérieur ou de faire ce qu'il ne doit pas faire. Donc l'école de la musique, pour moi, je trouve que l'enfant a bien réussi leur vie plus tard.
Ces enfants, je les vois comme des enfants, comme dans la mythologie, des enfants exposés, c'est-à-dire des enfants qui courent des risques. Parce que lorsqu'on est enfant de migrant, tous les jours, à petite dose, lorsqu'on vit en plus en banlieue, on est confronté à « Ah oui, mais t'es différent. Ah oui, mais ta mère, elle est voilée. Ah oui, mais ta mère, elle n'est pas comme la mienne. Ah, ta mère, elle ne parle pas bien le français. Et puis, elle a un drôle d'accent. » Enfin, il y a une sorte de... Moi, j'appelle ça le traumatisme à petite dose, pour reprendre l'expression de Winnicott, mais une sorte de confrontation quotidienne à une différence qui exclut les uns des autres. Et donc, ces enfants doivent apprendre à transformer quoi, cette singularité en quelque chose de plus. Et les enfants doivent faire feu de tout bois. Donc effectivement, il y en a qui vont avoir la chance d'être soutenus ou de faire des rencontres. Moi, je crois beaucoup à cette notion de rencontre qui structure les enfants.
Jacqueline Gosselin, vous qui avez un trajet de migration aussi, lointain aujourd'hui, mais bien vivace, vous diriez que vous vous sentez proche de ces enfants de la deuxième, troisième génération d'immigrés en France ?
Totalement. Totalement, parce que moi, quand je suis arrivée d'Algérie, donc j'ai habité donc Marseille, ensuite Montreuil, Bobigny, maman y est morte. Donc les enfants des générations bien après la mienne, eh ben, je ressens le fait qu'ils sont un peu perdus, comme je l'ai été, même si ce n'est pas une guerre, mais c'est une autre guerre, perdus de leur histoire. Non pas qu'on doive absolument se déterminer par sa propre histoire, mais sa propre histoire nous permet de pouvoir se mélanger. Tandis que quand on n'a pas connaissance de sa propre histoire, on ne peut pas faire un mix, quoi. Ben, c'est pour ça que je dis souvent aux enfants, posez des questions à vos grands-parents, à vos parents, sur leurs origines, sur ce qui les a aider ou fracasser, et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Et j'ai des lettres, Yasmine, des mails d'enfants maghrébins, espagnols, d'origine espagnole, même serbo-croates, qui m'ont dit « Madame, je vais parler à mes grands-parents, merci ».
Je remarque que pratiquement tous vos documentaires, Jacqueline Gosselin, s'ouvrent par votre voix qui dit « J'ai perdu la mémoire » et vous faites revivre... Enfin, elle est toujours vivante, je dirais même. Cette petite fille que vous avez été et qui a laissé sa poupée, elle est où votre poupée d'enfant ?
Malheureusement, je n'ai plus ma poupée Bella.
Elle ouvre tous vos documentaires. Hein.
Ben parce que je la voudrais la voir. C'est comme si, au fond, c'est vouloir retrouver son enfance. Et moi, le fait est qu'après, j'ai transformé, j'avoue, cette poupée Bella, je l'ai un peu transformée avec ma Renette Loranaise, avec ma maman. C'est comme si, au fond, j'avais toujours besoin de prendre quelqu'un dans mes bras, mais quelqu'un qui, lui, a une mémoire que je n'ai plus.
Là, c'est l'Algérie que vous prenez dans vos bras, en faisant tous ces documentaires.
Merci.
Et en œuvrant, mais véritablement, pour cette paix, et cette paix dont vous parlez entre la France et l'Algérie, qui ne peut advenir que si, justement, on a connaissance de cette fameuse guerre. d'Algérie. Au fond, votre hantise, j'ai l'impression en vous écoutant, Jacqueline, c'est que votre histoire judéo-algérienne s'efface un jour.
Oui. Oui, parce que quand je parle de cela, ou j'ai l'impression, moins quand je vais en Algérie, attention. Et quand je suis en France, j'avoue trouver très peu de personnes
réceptives.
Et moi, j'en souffre parce que c'est pas une question de pleurer, là. C'est une question de constat. Je fais le constat, on me dit « Oh, ton mur des lamentations. »
C'est si du passé.
C'est du passé. Il m'assimile dans certains de mes projets. Il croit que je veux faire la vérité si je mens. Même mes amis, certains me disent « ça suffit », me disent des mots très graves contre tout mon côté judéo-arabe et tout ça. Et je dis « mais avec qui je peux vivre ?» Les Juifs d'Algérie sentent une algérianité très forte en secret, c'est-à-dire dans les mariages, comme je disais tout à l'heure, dans tout ça. Les jeunes Juifs séfarades, si vous les voyez danser, vous vous dites « c'est pas possible, ils ont appris où ?» Ils aiment le côté noraf, comme je dis, qui est le mien, mais plus en secret, parce qu'il faut toujours montrer patte blanche. Eh bien, il ne faut pas que je parle trop, que j'ai un petit accent, que j'ai ceci, que j'ai cela.
C'est raté, hein, Jacqueline.
Bon, voilà, voilà Yasmine, mais c'est mon être.
En sol majeur. @rfi.fr.
Merci Jacqueline Gosselin d'être venue en sol majeur avec vos films. Je signale d'ailleurs, puisqu'on en a parlé au cours de cette conversation, que votre prochain documentaire s'intitulera « Algérie, mémoire en partage » sur cette question de la transmission. On pourrait se quitter avec la boulette de Diams, parce que vous êtes rap aussi à vos heures perdues entre deux labia.
Oui, très rap.
Sortez les briquettes, les briquettes. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macère, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de bête en cantat. Comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec, foulec chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Y'a comme un goût de viol quand tu marches dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone. Comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio. J'espère que vous êtes podcast, chère Jacqueline. Et derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche.
Dans la radio.
À 14h10, temps universel, 15h à Paris. Tania Tsikounas, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Ida Dossi. À la semaine prochaine.